VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 18h30 temps universel, le monde aujourd'hui, édition du 25 septembre 2017. Morgane Guiriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, RDC, évasion de 34 prisonniers au sud Kivu. Le génocide rwandais en magazine, la banque BNP Paribas accusée d'avoir financé l'achat d'armes au profit de la milice Hutu. Et puis les Kurdes d'Irak, votés aujourd'hui en faveur de leur indépendance lors d'un référendum. Retrouvez Nicolas Pinault à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pardon, pour la Minute Éco. Mais d'abord le journal. Cour pénale internationale sur la Côte d'Ivoire. L'ancien chef d'état-major des forces armées ivoiriennes a témoigné pour la première fois à La Haye dans le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo, poursuivi, souvenez-vous, pour des violences post-électorales en 2010-2011. Au Togo, l'opposition annule ses marches de mardi, mercredi et jeudi. Elle entend ainsi, et je cite, « se consacrer à la visite aux populations éprouvées par la répression des manifestations de la semaine dernière ». À noter toutefois que les 14 partis de l'opposition appellent à une journée Togo-mort vendredi. Au sud de Kivu, évasion spectaculaire de 34 prisonniers en République démocratique du Congo. Cette nouvelle évasion a eu lieu à la prison centrale du territoire de Mwenga. 3 évadés ont été capturés et 31 autres courent encore dans la nature. Ernest Mouhero donne les détails.
Selon l'administrateur du territoire de Mwenga, Désiré Masumbuko, il était 17h passé sous une pluie battante lorsque 34 détenus, profitant de l'inattention des gardiens, se sont évadés de la prison centrale de Mwenga en passant par un trou d'environ 60 cm de diamètre qu'ils ont creusé le long du mur opposé à l'entrée principale des cellules carcérales. Notre source précise que parmi ces évadés, il y avait 27 condamnés pour viol. Le député provincial Uli de Mwenga et chef de la chefferie de Basile, le Mwami Kalengarizik, parle lui des 41 évadés sur les 42 qu'il y avait dans cette maison carcérale. Il souligne qu'après récupération des 3 évadés, 38 sont encore recherchés, parmi eux 26 condamnés, dont 22 pour viol selon ses sources. Le vice-président de la nouvelle dynamique de la société civile de Mwenga, Mukambilo Asilibu, déplore une certaine négligence de l'État congolais dans le traitement des personnes privées de liberté. Selon lui, c'est depuis des semaines que les prisonniers de Mwenga et même de la cité de Kamituga se plaignent de l'absence d'alimentation et de soins médicaux. Mukambilo ajoute que quelques jours avant cette évasion, les détenus s'était rebellé dans cette prison centrale de Mwenga du fait d'être affamé. Le chef de la chefferie de Basile, le Mwami Kalengariziki, appelle la police à tout mettre en œuvre pour reprendre ses prisonniers car leur liberté peut accentuer l'insécurité dans l'ensemble du territoire de Mwenga. De Bukavu, Ernest Mouhero, VOA Afrique.
On reste dans l'est de la République démocratique du Congo où un adolescent de 14 ans a été tué dans une manifestation contre l'insécurité à Bukavu, capitale du sud Kivu. Il a été mortellement atteint par une balle, c'est ce que rapporte l'AFP. Tôt ce matin, les habitants du quartier pauvre de Panzi avaient barricadé les routes, brûlé des pneus et saccagé les bureaux. La France va continuer ses efforts pour aider à la réconciliation en Centrafrique. Telle est la promesse faite par le président français Emmanuel Macron à son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra en visite à Paris. Notons que la situation sécuritaire restait très fragile dans le pays. Emmanuel Macron estime que la Centrafrique a besoin d'un État fort pour sortir de la crise. La France va soutenir les actions de consolidation de l'État, de renforcement de la justice et de la lutte contre la corruption, a-t-il ajouté, sans entrer dans les détails. Attaque dans le centre du Mali. Des hommes armés ont saccagé et brûlé un bâtiment de la gendarmerie la nuit passée, selon l'AFP. Les terroristes, qui étaient à moto et en voiture, ont emporté au moins un véhicule et d'autres biens appartenant à l'État, explique une source sécuritaire malienne. Guinée, la commission électorale a proposé la date du 4 février 2018 pour la tenue d'élections locales réclamées par l'opposition. Le président de la République prendra un décret pour valider notre proposition, a déclaré le président de la CENI. Cameroun, la rentrée dans les universités publiques du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les deux régions anglophones en proie à une crise sociopolitique, a été reportée sine die. On fait le point avec Solange Niamoulissa.
Selon un communiqué du cabinet du Premier ministre, la rentrée académique aura lieu officiellement le 26 septembre 2017 dans les universités d'État et les instituts privés d'enseignement supérieur, à l'exception des universités de Bouéa dans le sud-ouest et de Bamenda dans le nord-ouest. Les deux universités ont été autorisées à réajuster leur calendrier académique pour respecter le taux réglementaire de couverture des programmes d'enseignement supérieur. Le texte ne précise pas que si ces reports sont dus aux remous qui agitent les deux régions du pays depuis novembre 2016 et la crise provoquée par la contestation anglophone au Cameroun. La rentrée scolaire dans le secondaire a eu lieu le 5 septembre dans les deux régions anglophones sur les 10 que compte le Cameroun. Depuis cette date, plusieurs écoles ont été incendiées, notamment à Bamenda. Vendredi, des manifestations d'indépendantistes réunissant des milliers de personnes avaient eu lieu dans les rues des régions anglophones, alors même que les autorités du Nord-Ouest avaient interdit toute manifestation. Les séparatistes anglophones veulent proclamer symboliquement leur indépendance le 1er octobre, date de la réunification des partis anglophones et francophones du Cameroun.
Sachez également que l'ambassade des États-Unis à Yaoundé a suspendu jusqu'au 3 octobre les déplacements non essentiels de son personnel dans les régions anglophones du Cameroun. Le Soudan s'engage à redoubler d'efforts pour normaliser ses relations avec les États-Unis. Annonce faite après la décision de Washington de mettre fin aux restrictions imposées aux Soudanais dans le texte de décret migratoire. Le Soudan a été retiré aujourd'hui de la liste actualisée des pays concernés par ce décret qui interdit ou limite l'entrée des États-Unis des ressortissants de la Corée du Nord, de l'Iran, de la Libye, de la Syrie, et de la Somalie, du Tchad, du Venezuela et du Yémen. Nous reparlerons de cette liste concernant le Tchad en partie magazine de cette émission. Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire, l'un des leaders de la contestation anti-Mugabe, a comparu devant la haute cour de Harare aujourd'hui. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Les précisions de Jacques Aristide.
Fondateur du mouvement This Flag, ce drapeau, ce pasteur évangélique est derrière plusieurs manifestations depuis l'an dernier pour dénoncer ce qu'il appelle la corruption, les violations des droits humains et le déclin de l'économie du Zimbabwe que dirige Robert Mugabe depuis près de 40 ans. À l'ouverture de son procès, Evan Mawarire a plaidé non coupable aux deux chefs d'accusation retenus contre lui, incitation à la violence et tentative de subversion contre un gouvernement constitutionnel. Pour le procureur de l'État, l'année dernière, M. Mawarire incitait, à travers ses médias sociaux, la population à renverser le gouvernement. Le pasteur de 39 ans a été arrêté hier en plein service religieux à Harare pour avoir diffusé la veille une vidéo sur la pénurie de carburant au Zimbabwe. D'après son avocat, il a déjà été appréhendé plusieurs fois après être ressorti libre du tribunal en juillet 2016. Il s'était exilé en Afrique du Sud, puis aux États-Unis. En février dernier, ayant laissé sa femme et ses trois filles en Amérique, il était revenu dans la capitale zimbabwéenne et avait été arrêté à l'aéroport. Après son procès en mars dernier, il avait été libéré sous caution. Son passeport lui a été confisqué.
Des gardes-côtes forestiers financés par le Fonds mondial pour la nature sont accusés de violation des droits de l'homme systématiques et généralisées envers les pygmées au Cameroun, en République démocratique du Congo et en Centrafrique. C'est ce que rapporte l'ONG Survival International.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les Kurdes d'Irak votaient aujourd'hui en faveur de leur indépendance lors d'un référendum historique qui pourrait ouvrir la voie à l'État pour lequel ils luttent depuis près d'un siècle. Les précisions de Dili Diko.
Les résultats anticipés du référendum prévoient un franc oui en faveur de l'indépendance du Kurdistan irakien. Mais Massoud Barzani, président de cette région autonome, a tenu à rappeler à ses concitoyens que le scrutin ne conduirait pas immédiatement à l'annonce de l'indépendance, mais qu'il donnerait plutôt lieu à un début de discussion sérieuse avec Bagdad. Le référendum s'est tenu dans les provinces d'Erbil, Souleymaniye et Dohuk, mais également dans les zones disputées avec le gouvernement central irakien. Les électeurs se sont présentés en masse. Au total, 12 072 bureaux de vote ont été installés dans la région autonome du Kurdistan et dans les zones disputées. Ils sont ouverts jusqu'à 18h heure locale pour permettre aux 5,3 millions d'inscrits de se prononcer sur l'indépendance. Cette consultation populaire constitue un pari risqué pour le Kurdistan, car le premier ministre irakien, Haider al-Abadi, a fait savoir qu'il prendrait les mesures nécessaires pour préserver l'unité de l'Irak. Le Parlement irakien vient d'exiger l'envoi de l'armée dans les zones disputées sous contrôle kurde depuis l'invasion américaine de 2003.
Syrie, des frappes aériennes russes ont tué au moins 27 civils, dont 10 enfants, dans la province d'Idleb, essentiellement contrôlée par les djihadistes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Donald Trump a déclaré une guerre à la Corée du Nord. Mais c'est du moins ce qu'affirme le chef de la diplomatie nord-coréenne, Ri Yong-ho. La Corée du Nord est prête à abattre des bombardiers américains s'approchant des côtes, a-t-il affirmé. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, La Minute Éco.
La compagnie britannique Tull Oil va reprendre ses forages pétroliers au Ghana d'ici à la fin de l'année après un arrêt du Tribunal international du droit de la mer sur un différend à propos de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. D'après ce tribunal, le Ghana n'a pas violé les droits souverains de la Côte d'Ivoire, comme l'affirmait Yamoussou Kro, qui considérait avoir un droit exclusif d'exploitation d'hydrocarbures dans une zone offshore disputée. Tull compte toutefois travailler avec les deux pays après cet arrêt. À Cotonou, la capitale économique du Bénin, des compagnies opérant des taxis chics pour transporter la nouvelle classe moyenne sont en train de voir le jour. Bénin Taxi, un partenariat privé-public, est venu rivaliser avec l'ivoirien Africab et la société Soft Taxi pour exploiter ce marché. Le gouvernement voit dans ces nouveaux projets une opportunité économique et une source d'emploi pour les jeunes qui représentent environ 60% de la population. En Guinée-Bissau, la croissance du PIB devrait atteindre 5,2% cette année en raison d'une nouvelle récolte considérable de cajou dans un contexte de prix internationaux attractifs. Revenu record des paysans, prévision de croissance flatteuse, la Guinée-Bissau savoure ainsi le succès de sa bataille pour mieux profiter du cajou, sa principale production, même si la transformation locale demeure un défi.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Ligue africaine des champions, on connaît l'affiche des demi-finales.
Eh oui, les Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel ont battu 2-0 les Libyens de Al Ahly Tripoli. C'était hier à Sousse en quart de finale retour de cette Ligue des champions d'Afrique. Dans le dernier carré, l'Étoile rencontrera l'équipe égyptienne d'Al Ahly qui a éliminé l'Espérance de Tunis samedi. Dans l'autre match, les Marocains de Casablanca, tombeurs détenant du titre, les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Ils affronteront l'USM Alger qui s'est débarrassé du Ferroviaire au Débéir.
En Coupe CAF aussi, les jeux sont faits.
Les Congolais du tout-puissant Mazembe, tenant du titre, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe CAF en battant sur leur pelouse les Soudanais Dalil Al Obied 5-0. Ils rencontreront le FUS de Rabat qui a éliminé en Tunisie le CS Sfaxien au tir au but. Dans l'autre demi-finale, le club africain de Tunisie affrontera le Supersport United qui est allé faire match nul 2-2 chez le Zesco en Zambie.
En Europe, deuxième journée de la Ligue des Champions à partir de demain.
L'Armada du Real Madrid, double tenant du titre, se rend sur la pelouse du Borussia Dortmund, très en forme. Ce sera demain soir. Autre choc attendu, Manchester City, intraitable en Angleterre, face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Dans les autres rencontres, après un nul contre Séville de partout, Liverpool se rendra chez les Russes du Spartak Moscou. Monaco, après deux succès autoritaires en championnat, accueillera Porto au Stade Louis II. Les Portugais doivent réagir après s'être inclinés 3-1 chez eux face au Besiktas. Besiktas qui jouera contre Leipzig et puis Naples accueillera Feyenoord Rotterdam. Enfin, l'Apoel Nicosie contre Tottenham.
Et puis, coup dur pour la Juventus Turin.
Le président de la Juve, Andrea Agnelli, a été condamné à 1 an de suspension et 20 000 euros d'amende pour une affaire de vente de billets à des groupes ultra. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la Fédération italienne de football.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Les ressortissants tchadiens sont bannis du territoire américain. Washington a ajouté N'Djamena sur la liste des pays visés par le décret migratoire de Donald Trump. Ce décret interdit ou limite l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 8 pays. André Konmajingar a recueilli les réactions des autorités et praticiens du droit dans ce reportage.
Les Tchadiens se disent désagréablement surpris de la décision du président Donald Trump leur interdisant d'entrer sur le territoire américain. Vu les accords de coopération entre les deux pays et vu l'engagement du Tchad sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme, le président Donald Trump ne devrait pas prendre une telle décision contre les ressortissants tchadiens, ont-ils affirmé. Dr Ngarte Baye et Eugène Lyota, juriste, politiste, analyste et indépendant, s'interrogent sur le mobile réel de cette décision.
Si cette décision est arrivée, c'est que le Tchad abrite un certain nombre de personnes jugées potentiellement comme des terroristes. Est-ce que les autorités américaines ont engagé des démarches auprès des autorités tchadiennes pour demander des informations relatives à ces personnes et que les autorités tchadiennes ne se sont pas exécutées? Est-ce qu'on arrive à trouver des bagages suspects en provenance du Tchad? Est-ce que les autorités tchadiennes disposent de bases de données actualisées qui peuvent permettre de transmettre en temps réel les informations aux autorités américaines qui les souhaitent dans le cadre de lutte contre le terrorisme et que les autorités tchadiennes n'arrivent pas à le faire? C'est ça aussi les inquiétudes.
Dr Ngarte Baye et Eugène Lyota précise par ailleurs que cette décision est une incidence diplomatique et invite les autorités tchadiennes à clarifier la situation.
Oui, c'est une incidence diplomatique, bien évidemment, puisque c'est interdit à tous les Tchadiens, y compris nos autorités. Donc la tension, elle est palpable. Que font nos représentants au niveau des États-Unis s'ils ne peuvent pas recevoir les compatriotes? Je pense que les jours qui suivent vont nous dire, à travers la position de l'État tchadien, le développement ultérieur de relations avec les autorités américaines.
Justement, la réaction du gouvernement tchadien ne se fait pas attendre. Au cours d'une déclaration faite ce lundi à son cabinet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alinghe, se dit ne pas comprendre la motivation réelle de cette décision.
Tout en prenant acte de cette décision, le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision. Aussi, le gouvernement tchadien appelle-t-il à une meilleure appréciation de la situation et invite le président Donald Trump à reconsidérer cette décision qui porte gravement atteinte à l'image du Tchad et aux bonnes relations qu'entretiennent les deux pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Toutefois, le gouvernement ne souhaiterait pas être amené à user du principe de réciprocité dont l'application serait préjudiciable aux intérêts des deux pays.
André Konmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'association anticorruption Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et l'ONG Ibuka France accuse la banque BNP Paribas d'avoir financé un achat d'armes au profit de la milice Hutu pendant le génocide de 1994. Une information judiciaire a été ouverte à Paris pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Yakuba Ouedraogo a joint Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda.
Nous reprochons tout simplement à BNP Paribas d'avoir, à la mi-mai 1994, financé un achat d'armements qui ont servi dans le génocide des Tutsis.
Comment le groupe bancaire BNP Paribas a pu financer les achats d'armes quand on sait que pendant cette même période du génocide, les Nations Unies ont décrété un embargo justement sur les armes au Rwanda?
Ça paraît assez extraordinaire de voir qu'une banque aussi importante que BNP Paribas ait pu, malgré l'embargo des armes, ça veut dire que certaines personnes se sentent au-dessus des lois, au-dessus des décisions internationales. L'argent n'a pas d'odeur.
Est-ce que vous savez comment la banque a procédé?
C'est difficile de vous le dire comme ça parce qu'il faudrait que je me replonge un petit peu dans la plainte que nous avons déposée. C'est très très bien détaillé. Nous avons déposé une plainte vraiment très alimentée, très bien structurée avec à l'appui nombre de documents qui, selon nous, prouvent que la banque BNP Paribas à financer cet armement.
Vous vous êtes constitué partie civile dans cette plainte. Qu'est-ce que vous demandez à la justice française?
C'est que la justice française, maintenant qu'une instruction est ouverte, eh bien, fasse toute la lumière sur ce qu'a pu être le rôle de la BNP Paribas. Ça pourrait aussi servir à d'autres à l'avenir. C'est une complicité de crimes contre l'humanité. Ce sont des événements extrêmement graves.
On sait que les relations ne sont déjà pas au beau fixe entre Paris et Kigali, du fait notamment des multiples accusations. Pensez-vous vraiment que la justice française puisse faire la lumière dans cette affaire de BNP Paribas?
C'est un juge d'instruction qui a été nommé, un juge d'instruction du pôle crime contre l'humanité. Nous ne comprendrions pas que ces juges-là, dont on dit qu'ils sont indépendants, ne puissent pas aller jusqu'au bout dans l'instruction de cette affaire. Il faut absolument, c'est nécessaire, même pour les citoyens français, pour les citoyens du Rwanda et les citoyens du monde entier, que cette affaire aille à son terme.
Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, les professeurs de l'université de Kinshasa et de l'université pédagogique ont entamé leur quatrième semaine de grève. Ils demandent une revalorisation de leur salaire et veulent aussi choisir leur recteur. Ce mouvement de revendication a perturbé les cours et examens. Les précisions d'Abdou Amandia, notre envoyé spécial à Kinshasa.
Contrairement aux médecins qui ont mis fin à leur mouvement de grève après un accord avec l'État, les professeurs d'université, eux, sont toujours à l'écoute du gouvernement. Ils demandent l'application des accords signés en 2010. Professeur Mathieu Bokolo est vice-président du syndicat des professeurs de l'université de Kinshasa.
Il fallait ramener le salaire à 2 000 $ et l'améliorer progressivement. Mais depuis 2010, l'amélioration n'a pas eu lieu. Mais par contre, les 2 000 $ s'effritent. Et suite à la dépréciation de la monnaie, nous ne sommes plus qu'à 1 100 ou 1 200 $. Et voilà que nous avons perdu pratiquement plus de 40% de notre pouvoir d'achat.
Les enseignants dénoncent aussi le manque d'investissement dans l'enseignement, ce qui a un impact négatif sur la qualité de l'enseignement. Professeur Bokolo.
C'est une situation très grave qui compromet même le développement du pays. Nous n'avons pas d'allocation de recherche. Nous n'avons pas d'allocation pour faire la documentation ou la diffusion de nos savoirs. Et ça pose un problème. Il n'y a rien, il n'y a pas de financement de la recherche, il n'y a pas de financement des équipements.
Les enseignements et le calendrier académique souffrent de ce bras de fer. Les étudiants essayent de faire avec cette incertitude.
Nous, on continue à travailler, à bosser. On ne sait pas si ça va aller jusqu'au bout ou quoi. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a commencé la deuxième session, mais je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout. Mais ça nous affecte parce que les temps aussi de préparation et puis l'année aussi. Normalement, on commence le mois d'octobre, mais nous sommes au mois de septembre et octobre déjà. En faisant la deuxième session, on va entrer dans le mois de octobre, donc ça va pénaliser aussi le calendrier académique.
Mais son camarade Kadima est plutôt optimiste.
À mon avis, dans notre faculté de médecine, cette grève en fait n'a rien perturbé. Parce que normalement, on avait fini la première session. Maintenant, la deuxième session commence aujourd'hui.
Abdourahmane Dia, Kinshasa, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Sénégal, le gouvernement s'attelle à désengorger la capitale Dakar et sa banlieue. Il a entrepris le prolongement de la voie de dégagement nord, VDN. Et ce projet couvre 26 km de route et a déjà causé pas mal d'inconvénients à nombre de gens. Les pratiquants de sport ont vu les travaux empiéter sur les aires de jeu. Cette situation leur a obligé à se rabattre sur des terrains de fortune, comme l'a constaté notre correspondant Seydina Abagué à Dakar.
De l'unité 26 des parcelles assainies à Diamalaï, les terrains de football ont laissé place à un viaduc long d'un kilomètre. Abdouaziz, dirigeant de l'équipe de football des HLM Grand Médine, ne cache pas sa peine. Cependant, il estime que l'utilité publique prime sur tout.
Bon, ça va, actuellement on gère tout. Bon, c'est un peu difficile, par exemple, quand on joue pas
On donne presque à chaque jour le moyen de transport. Mais je pense bien que, comme on l'avait dit, qu'un jour, il y aura la Vérenne qui va passer ici. Un peu difficile parce que là, on est à côté de la mer. Donc, la Vérenne a pris le terrain. C'est ce qui est normal. Bon, on n'a pas le choix. Hein. Franchement, on n'a pas le choix quand l'État veut. Donc, on est obligé de perdre. Donc, c'est ça.
Malgré les efforts pour continuer leurs activités, ces équipes rencontrent d'énormes difficultés.
Parfois, c'est un peu difficile parce que, en fait, quand il pleut, le terrain il est inondé. Hein. Donc, parfois, c'est un peu difficile. Parfois, on s'entraîne à côté de la mer. Parfois, il y a des contraintes. Il paraît qu'il y a des litiges hein, là où on est actuellement. Il paraît qu'il y a des litiges. Bon, en fait, il y a des promoteurs à qui appartient en fait, ce terrain.
Depuis le début des travaux de la VDN2, les pratiquants du sport squattent les terrains vagues des quartiers ou les cours des écoles quand ils ne se retrouvent pas à la plage. Hassim Sen juge cette situation insoutenable.
Cette situation elle est très difficile parce que bon, nous n'avons plus de terrain à jouer, raison pour laquelle bon, nous sommes ici à l'école de 26 pour jouer. Aussi, avec l'approche de l'ouverture, je crois qu'il y a un grand problème que les ACP s'entraînent parce qu'il n'y a plus de terrain de jeu. Les terrains occupés par la Vérenne sont les terrains qui s'entraînaient, mais bon, puisqu'il n'y a plus de terrain, la plupart des ACP s'entraînent à la plage. C'est un peu dangereux parce que bon, il y a les enfants aussi qui viennent là pour regarder l'entraînement de l'AC. Et aussi, il y a une danse aussi parce que il peut aller se baigner, se noyer, il y a tout ça là.
Sur les 26 km qui constituent le prolongement de la VDN, le kilomètre qui se situe entre les parcelles Assénie et Djamalaï prive les entités sportives et plusieurs centaines de jeunes d'air de jeu. Ces pratiquants du sport ne peuvent plus vivre leur passion convenablement. Ils espèrent un accompagnement logistique de l'État pour continuer leurs activités sportives. Sedina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Your little games, don't like your tilted stage, the role you made me play, the fool, no I don't like you, I don't like your perfect crime, how you laugh when you lie, you said the gun was mine, isn't cool, no I don't like you, but I got smarter, I got what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me, ooh, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. I don't like your kingdom cake, they once belonged to me, you asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast.
What?
The world moves on another day, another.
Voilà, c'était Taylor Swift, Look What You Made Me Do. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph, Morgan Guiriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui,
diffusée partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.